le peuple d'Israël avait pris la fuite. Alors le pharaon et ses hauts fonctionnaires changèrent d'avis à leur sujet et dirent « Qu'avons-nous fait là ? » En laissant partir les Israélites, nous avons perdu notre main-d'œuvre. Le pharaon fit atteler son char et mobilisa ses troupes. Il choisit 600 de ses meilleurs chars qu'il fit suivre de tous les autres chars d'Égypte. Chacun d'eux était pourvu d'un équipage de 3 hommes. Les Égyptiens les poursuivirent donc et les rattrapèrent alors qu'ils étaient campés au bord de la mer. Tous les attelages du pharaon, ses hommes d'équipage, de chars et son armée les atteignirent près de Pi-Hahiroth en face de Baal-Tsephon. Le pharaon s'était rapproché. En regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent des cris vers l'Éternel. Puis, ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes ici mourir dans le désert ? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte ? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. Nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. »
Est-ce que vous avez déjà vécu un grand moment dans votre vie, un moment qu'on appelle déterminant ? Dans votre vie, non pas qui vous détermine, qui vous plonge dans le déterminisme de la vie, mais qui vous définit, qui vous permet de vous approcher de votre identité, qui marque votre existence. En anglais, sauf erreur, j'en ai pas parlé avec mon anglophone de femme, mais « defining moment », avec, c'est la traduction en français, c'est un moment déterminant, mais « defining », un moment qui vous définit, un grand moment. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme cela ? Pour les Israélites, ce grand moment est arrivé. On vient de lire un extrait et nous faisons une série sur le livre de l'Exode. Je vous laisse regarder rapidement. Et vous savez, l'Exode avec Moïse. Et c'est le 2e livre de la Bible. Et la sortie d'Égypte, et la dernière fois en octobre, je crois, c'était la Pâque, et ils commencent à sortir d'Égypte, et aujourd'hui c'est autre chose. Alors, Exode veut dire la sortie exodos en grec, la sortie de route, non, la sortie, le chemin de sortie. Et ce qui est en grec moderne, ça existe encore, tous les 20 kilomètres, il y a un exode, ou exodos, exit, la sortie. Et pour le peuple d'Israël, cette sortie d'Égypte va marquer leur histoire et leur identité. Et ce moment arrive là. Ils ont fêté la Pâque, la première de leur histoire, mais certainement pas la dernière de l'histoire universelle. Et puis ils s'en vont. Il y a un petit temps de confusion dans le désert, et dans le choix de l'itinéraire, et les pharaons les rattrapent au bord de la mer. Et c'est alors que ce grand moment, le moment déterminant, va arriver, la mer va s'ouvrir. Et nous continuons la lecture. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide ?» Littéralement, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, le fameux bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux et les Israélites la traverseront à pied sec. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit souffler sur elle pendant la nuit un violent vent d'est. qui refoula la mer, de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. Les Israélites passèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, alors que les eaux se dressaient comme des remparts à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses hommes d'équipage de chars, s'engagèrent après eux au milieu de la mer. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de fumée et de feu. Et il y sema le désordre. Il fit s'enliser les roues des chars de sorte qu'ils n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour eux contre nous, contre l'Égypte !» L'Éternel dit à Moïse « Étends la main sur la mer et que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs hommes d'équipage. » Moïse étendit la main sur la mer et au point du jour, la mer revint en place. Les Égyptiens, qui battaient en retraite, trouvèrent la mer devant eux et l'Éternel les précipita dans la mer. Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les hommes d'équipage de toute l'armée du Pharaon qui s'était engagée à travers la mer à la suite des Israélites. Pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et une autre à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple eut de la crainte, ou du respect, ou furent impressionnés envers l'Éternel, par l'Éternel. Il eut confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble autour de ta parole. Ta parole faite chair en Jésus-Christ, mais ta parole qui nous révèle Jésus-Christ et qui nous révèle ton plan de salut, qui nous révèle ta volonté pour nous également. Donne-nous, par ton Saint-Esprit, d'ouvrir nos cœurs à cette parole. Que tous nous puissions être disposés et disponibles pour l'entendre et pour la faire vivre dans nos vies de tous les jours. Prions d'être aussi avec les enfants et les animateurs en bas, comme on le dit, le culte continue pour eux aussi. Et tous ensemble, Seigneur, autour de toi, parole incarnée, nous voulons te célébrer ce culte. Au nom de Jésus, amen. Alors, je vais continuer sur le thème du moment déterminant. Un grand moment pour l'histoire juive, pour l'histoire du peuple juif, ce moment, cette traversée de la mer va rester dans, comme on dit, dans la mémoire collective. Dès le chapitre 15, il va y avoir un chant, Moïse et les hommes vont entonner un chant, et puis y avoir un écho. Myriam, la sœur d'Aaron et de Moïse, va entonner un cantique, moi je l'ai appelé avec toutes les femmes israélites, les Myriam Sisters, un nouveau groupe de chants qui s'installe et qui vont chanter pour l'Éternel, il a fait éclater sa gloire, il a culbuté dans la mer le cheval et le cavalier. Intéressant, l'accent est mis sur la destruction des armes de guerre, sur les armes de puissance humaine. Le chant semble avoir traversé tous les âges jusqu'à Néhémie. Néhémie, qui est haut fonctionnaire, goûteur de vin à la cour du roi des Mèdes et des Perses, à Suse, le roi Artaxerxès, mais qui a à cœur de reconstruire les murailles de Jérusalem. On est dans l'exil, ou juste après l'exil. Et Néhémie rentre à Jérusalem pour reconstruire les murailles de Jérusalem au 5e siècle avant Jésus-Christ. Là, on est au 15e siècle avant Jésus-Christ pour le chant de Myriam. 10 siècles après, Néhémie, dans un discours, a envie de revenir sur cet épisode. Et il va y dire « Tu as vu la misère de nos ancêtres en Égypte et tu as entendu lorsqu'ils ont imploré ton aide sur les bords de la mer des roseaux ?» Tu as accompli des signes extraordinaires et tes prodiges, tu as ouvert la mer devant eux et nos ancêtres l'ont traversée à sec. Ainsi, tu t'es acquis une grande renommée qui s'est maintenue jusqu'à ce jour, jusqu'au 5e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Ésaïe, le prophète, entre-temps, au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc avant Néhémie, parle d'une renommée éternelle et glorieuse. Et le mot gloire ou glorieuse en hébreu a le sens de poids. C'est une histoire qui a du poids, une renommée glorieuse, une renommée qui a du poids, qui marque la vie. Et c'est un grand moment que cette traversée spectaculaire, un moment déterminant pour le peuple d'Israël, qui avant cela n'était pas vraiment un peuple, peut-être une tribu un peu nomade, mais pas plus. Et cet événement va le constituer, va l'identifier, va lui donner une identité. Alors ce qui frappe, et vous l'avez vu à... Vous l'avez imaginé à la lecture, c'est le côté spectaculaire. Donc c'est un grand moment dans l'histoire juive, mais c'est un grand moment de cinéma aussi. Et la Paramount Pictures, il y a la Columbia Pictures, Universal Pictures, et puis je sais pas quoi. Et puis il y a la Paramount, s'est saisie de ce thème en 1956 avec Cécile B. 2000, et qui a fait les 10 commandements. Et là, on y va avec une super... vous voyez Yul Brynner, là, on le voit pas avec son chapeau de pharaon, mais c'est le plus beau chauve de toute la cinématographie. Et Charlton Heston en Prince de Nil, une super distribution avec 7 nominations aux Oscars, mais un seul Oscar obtenu pour... Il y a des cinéphiles là. Les effets spéciaux. 7 nominations, un seul Oscar, les effets spéciaux. Et en particulier, celui de la mer qui s'ouvre. Alors, il faut savoir, une petite parenthèse, mais que c'est l'effet spécial qui a coûté le plus cher pendant très longtemps. Et d'ailleurs, pendant longtemps, le secret a été gardé. En fait, ils ont pris, dans les studios de Universal, et ils ont pris des grands réservoirs et ils ont déversé l'eau à grand flot. Et puis, pour le montage, ils ont mis la marche arrière. Les eaux remontent. Et ils ont ajouté des tonnes de gélatine dans l'eau pour que ça soit un peu plus consistant pour les murs. Mais cette traversée, c'est du spectacle, un si grand spectacle. En octobre, pour la Pâque, on avait chanté « Un si grand miracle ». J'ajoute, et je parle d'un si grand spectacle. Un si grand spectacle. Un si grand miracle. Et vous vous posez la question peut-être de savoir, ou certainement, si c'est historique, ce spectacle. Si c'est vraiment vrai, est-ce que c'est un vrai miracle ? Et je suppose que là-dessus, vous m'attendez au tournant, peut-être. Alors, la question de l'historicité se pose depuis longtemps. Bon, ça se passe il y a 3500 ans, quand même. Et d'abord, sur l'itinéraire pris par Moïse et le peuple, quelle mer exactement ont-ils traversé ? Où se situe la mer des roseaux ou des joncs ? Alors, certains pensent qu'il s'agit d'un lac. Vous voyez, la mer Rouge, le bras de la mer Rouge, là, puis ça se termine par des lacs qui vont jusqu'à la côte méditerranéenne. Et ils pensent qu'à l'est du bassin du Nil, là, ils ont passé là à travers un lac, ce qui expliquerait la présence des roseaux dans l'eau douce, et peut-être des marécages. Ou alors un peu plus bas, dans le bras de mer de la mer Rouge, là où c'est le plus étroit. Des questions sur là où ils sont passés. Alors certains vont dire, et on l'entend parfois, mais là n'est pas du tout l'essentiel. La géographie ou l'histoire ou l'historicité, la foi n'a que faire de ces considérations géographiques et historiques. Moi j'ai envie, en entendant ça, d'utiliser mon expression bruxelloise préférée, oui, mais non peut-être. Certes, ou en français plus châtié, oui, certes, mais quand même. Il est aussi important que notre foi s'ancre dans l'histoire, dans ce qui s'est réellement passé. 1 Corinthiens 15 qui nous parle de la résurrection de Christ, nous dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, vide, sans rien. Et nous sommes les plus tristes de tous les hommes, dit Paul, en 1 Corinthiens 15. Mais il le dit aussi, mais Christ est réellement ressuscité. Et il est la garantie pour nous de notre résurrection. Et notre foi n'est pas vaine. Nous sommes, notre foi s'ancre dans l'histoire, dans ce qui s'est réellement passé. Il y a le philosophe Hegel, je ne sais pas si je prononce bien en allemand, du 18e, 19e siècle, à cheval sur les deux, qui est un peu le père de la dialectique. Je sais pas si vous vous souvenez des cours de philo, mais son truc c'était thèse, antithèse, synthèse. Et on progresse comme ça. Et il était d'une famille protestante, il a fait aussi des études de théologie, et il disait, je savais pas qu'il parlait de la Bible, mais il disait, la division de la mer des joncs est due à un concours de circonstances naturelles. Mais un rabbin lui a répondu du tac au tac, le fait que ces phénomènes se soient produits exactement au moment même où les Israélites devaient traverser la mer constitue le plus grand des miracles. Eh ben oui, moi je suis du côté du rabbin. Même si Hegel, bon bref, mais je pense d'ailleurs qu'on peut faire une sorte de mixte, c'est le seul mot que j'ai trouvé, mais des deux, comme pour les fléaux d'Égypte. Les fléaux d'Égypte sont des phénomènes naturels, en tout cas pour les neuf premiers, et Dieu peut utiliser des phénomènes naturels comme un phénomène méditerranéen que nous subissons aujourd'hui, mais en pleine mer rouge, pour accomplir son œuvre miraculeuse dans le temps précis qu'il aura choisi pour le faire. Par rapport au miracle de la Bible, j'aime dire cela, ça vaut ce que ça vaut, mais cette expression qui dit « qui peut le plus peut le moins ». Si Dieu est certains scientifiques, astrophysiciens le reconnaissent, qu'il y a un Dieu créateur de la vie, qui a un point de départ. Si Dieu peut créer la vie sur Terre, si Dieu peut créer l'univers, si Dieu, de la manière avec laquelle il aura jugé bon, à combien plus forte raison il peut ouvrir une étendue d'eau de la manière qu'il aura jugé bon pour le faire. Qui peut le plus, peut le moins. Ayant dit cela, la description que nous avons par Moïse n'est peut-être pas non plus scientifique, elle ne veut pas être scientifique. La Bible explique le pourquoi et non pas particulièrement le comment. La question de savoir combien de mètres cubes contenaient les murailles d'eau n'est peut-être pas tout à fait pertinente non plus. Une chose est sûre, c'est que l'armée de Pharaon s'est trouvée embourbée et engloutie et n'a pas pu rattraper les Israélites. C'est une victoire de la foi, de la confiance sur les armes de destruction massive, les chars et les cavaliers. Et donc, c'est un récit qui ne se veut pas être scientifique, mais qui veut être théologique dans le sens qui veut nous parler de Dieu et de sa puissance de libération, de sa délivrance, de sa rédemption, et même de sa recréation à partir du chaos. Et il y a quelques allusions dans le texte qui sont intéressantes, où il nous parle du vent d'Est, le vent du Mercantour, le vent d'Est qui souffle. Le vent, c'est le ruach, qui veut dire aussi le souffle, qui veut dire aussi l'esprit. Et dans Genèse 1, 2, vous vous souvenez, le premier livre de la Bible, l'Esprit de Dieu, l'Esprit planait au-dessus des eaux. Il vient juste de dire que la terre était informe et vide. Le tohu-bohu, en hébreu, qui a donné l'expression en français, c'est un vrai tohu-bohu, pour dire bazar, un chaos. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des yeux. Le souffle, pour une recréation, pour une création, et dans l'Exode, pour une recréation. Et le verset où il est dit que dans l'Exode, où la mer se trouve séparée en deux et la terre ferme apparaît, rejoint Genèse 1, 9, où il est dit que Dieu sépara les eaux pour que la terre ferme apparaisse. La même expression pour nous dire que cette traversée de la mer Rouge est aussi une recréation. Ce passage de la mer, historique certainement, est aussi en même temps une histoire de la recréation à partir du chaos des eaux, une histoire de rédemption, de salut pour un peuple qui traverse à pied sec et qui est délivré de son oppresseur de toujours et pour toujours. Nous continuons. Voilà. Photographié. Suivant. Un moment déterminant pour Moïse. On l'a vu en juin, je pense. Les débuts sont difficiles pour Moïse. Dans son histoire personnelle, c'est pas terrible. Il tue un homme. Il doit passer dans le désert pour apprendre un petit peu, et puis il commence, mais tout semble aller moins bien qu'avant. Le peuple l'accueille, le pharaon s'oppose complètement. À ce moment-là, dans Exode 14, il a la plus grande armée du monde à ses trousses, et son peuple est sur le point de se mutiner. Et il a besoin d'un signe fort de la part de Dieu. Et la traversée de la mer des joncs est pour lui comme une transition vers un nouveau statut. Josué fera de même, son successeur, quelques dizaines d'années plus tard, en passant le Jourdain, une traversée qui est comme une transition pour ces deux leaders, pour Moïse et pour Josué. Et dans le récit d'Exode 14, Dieu lui demande de tendre son bâton. Son bâton qui est là depuis le début. Vous vous souvenez? Dieu lui demande, alors qu'il va aller voir Pharaon, qu'est-ce que tu as entre les mains? Et puis il regarde ses mains, il a son bâton de berger parce qu'il était berger avant d'être ce grand leader. Incontesté, non pas incontesté, ce grand leader devant l'Éternel. Il est berger, il a un bâton, et avec ce bâton, il va accomplir des actes de foi, on va dire. Et Dieu aurait pu ouvrir la mer sans le bâton de Moïse, mais il demande à Moïse de tendre ce bâton, et les eaux s'ouvrent. Donc, il intègre Moïse dans son plan, il prend soin de Moïse, il le met en valeur et il assoit son autorité devant le peuple. C'est lui le leader que j'ai choisi, l'homme au bâton. Et pour Moïse, c'est un formidable encouragement. Il y a une petite phrase qui est intéressante, le verset 15, le deuxième paragraphe que nous avons lu, qui commence, et c'est un peu déroutant, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide ?» Alors qu'on n'a pas l'impression que Moïse appelle à l'aide. Alors, bref, mais « Pourquoi cries-tu vers moi ?» On a l'impression que c'est presque un reproche, alors qu'il y a de nombreux passages dans la Bible où l'homme, vous et moi, mais le psalmiste, Job, crie vers Dieu. Et c'est un acte de foi de pouvoir crier vers Dieu. C'est normal de demander de l'aide à Dieu, et dans la vie chrétienne également, ça fait partie de la vie de foi. Mais on va citer l'Ecclésiaste, le Coëlète. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour demander de l'aide, se lamenter dans un sens positif, il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour se mettre en route, pour se mettre en chemin. Dieu est prêt à combattre pour eux, mais il faut aussi la participation de Moïse et de son peuple. Il faut un moment se mettre en route, même si la mer, même si une étendue d'eau tumultueuse se trouve devant nous et qu'on est bloqué, pris en tenaille entre l'armée de Pharaon et cette étendue d'eau. Et puis, il y a l'épisode du bâton. Un moment déterminant pour Moïse, un moment déterminant pour le peuple. Et on arrive avec le peuple d'Israël à un grand moment de psychologie humaine ou de psychologie de masse. Quand le peuple sortit d'Égypte, après les fléaux d'Égypte, après la fête de la Pâque, avec laquelle ils... la fête de la Pâque, lorsqu'ils aperçoivent les chars égyptiens, ils sont pris d'une grande peur. C'est assez normal quand même. Et se retournent contre leur leader, contre Moïse. C'est aussi relativement normal. Et ils vont dire quand même quelque chose d'assez extraordinaire, malgré tout. « Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte ? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. » Incroyable. « Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » Un grand moment de solitude pour Moïse, et il y en aura d'autres, et un grand moment de doute et de nostalgie pour le peuple. Et il y a dans leur attitude un mélange de deux expressions que l'on connaît bien. « Je te l'avais bien dit, et c'était mieux avant. Hein? »« Je te l'avais bien dit. » Irritant. Quand votre conjoint vous dit « Je te l'avais bien dit » ou pour un enfant, quand son père ou sa mère lui dit « Je te l'avais bien dit », c'est irritant. C'était mieux avant. Les commentateurs, certains commentateurs disent que ce genre de réaction sont des séquelles de l'esclavage, des marques d'une vie sous l'esclavage, qui fait que l'on réagit comme ça. Je trouvais ça intéressant. Mais un autre commentaire disait, il trouve que la servitude égyptienne n'avait pas que des défauts. On a déjà parlé des fausses nostalgies, des mauvaises nostalgies que l'on peut avoir, et des nostalgies actuelles aussi, hein, pour des temps d'oppression passée, où on était opprimé, soit, ou peut-être une partie de la population était opprimée, mais au moins, il y avait de l'ordre. Et il y avait du confort pour mon petit groupe. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas insister. Mais hier, on a vu dans les médias qu'il y avait des nostalgiques de Pétain. C'est fou. Mais Dieu est bon avec ces nostalgiques israélites et avec tous ceux qui ont peur. Il leur dit d'avancer. Mais non pas dans le complet inconnu, dans le noir, dans la solitude. Non, il va leur dire « L'Éternel combattra pour vous ». Et il le dira aussi un peu plus tard dans d'autres formes. « L'Éternel combattra pour vous ». Il le dira plus tard dans une autre bataille. Dans 2 Chroniques 20, c'est le roi Josaphat qui a affaire à une coalition contre lui. Et... l'Éternel, par la bouche d'un prophète, va lui dire « Cette bataille n'est pas ton affaire. » C'est un de mes passages préférés et qui résonne dans nos petites guéguerres. « Cette bataille n'est pas ton affaire. » Et il va leur dire « Je combattrai pour vous. Contentez-vous de vous tenir là. » Incroyable. C'est ce qu'il dit aussi à Moïse et au peuple. Je suis là avec vous et je ne vous fais pas de reproches. Et en cela, Dieu fait simplement appel à la foi des Israélites. Et ce récit se termine, enfin ce paragraphe, en tout cas non, le chapitre 14 se termine par ça. Le peuple eut de la crainte envers le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, fut impressionné. Il eut confiance, le verbe croire est là. Il crut en Dieu et en Moïse, son serviteur. Tout se termine par la foi, parce que cette histoire de traversée de la mer Rouge, c'est une histoire de foi, c'est une histoire de confiance. Pas dans le char et dans le cavalier, pas dans les armes et l'armement, pas dans les tanks, les missiles balistiques et les drones sous-marins, mais dans le Seigneur Tout-Puissant, El Shaddai. Un moment déterminant pour, poup, toi, avec majuscule s'il te plaît. Vous vous souvenez du rabbin Gamaliel, première prédication qui disait, tout croyant doit se sentir comme personnellement sorti d'Égypte, tiré d'Égypte, comme la racine verbale hébraïque, Moses, tiré. Chacun doit s'en sentir. Et Gamaliel n'a pas tort, on a déjà parlé d'Ésaïe qui appelait à se souvenir de la traversée de la mer des gens, mais le prophète Ésaïe pressent aussi qu'il va y avoir un nouvel exode, qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans cette histoire. Ainsi dit l'Éternel, Ésaïe 43, c'est un texte un peu long, mais je vous prie de me pardonner, mais c'est puissant, et ça montre toute la cohérence de la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel qui, à travers la mer, a ouvert un chemin, et dans les grosses eaux a frayé un sentier qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers, ils se sont tous couchés, ils ne se relèveront plus. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne soyez pas nostalgiques. Ne considérez pas les choses d'autrefois, c'était mieux avant. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ce nouvel exode, ce chemin qui s'ouvre devant nous, nous la reconnaissons en Jésus-Christ. En Jésus, et la Bible est une bonne nouvelle en continu, au temps voulu par Dieu, Jésus, son Fils bien-aimé, le Christ, prend sur lui le jugement des eaux tumultueuses, le chaos, pour que nous puissions traverser la vie à pied sec ou sur la terre ferme, pour que nous puissions nous y tenir, pour nous ouvrir un chemin nouveau vers la liberté, et nous la vivrons intensément ce moment en prenant ensemble le repas du Seigneur. Mais pour nous qui sommes pleinement dans ce nouvel exode, les paroles dites au peuple d'Israël s'adressent également à nous. Nous qui vivons une traversée de vie difficile peut-être, ou une période de transition, ou une période d'épreuve, ou un tunnel dont on ne voit pas la lumière, ou une sortie difficile de l'oppression, ou une période où on est tenté de revenir en arrière, ou tout simplement vous tous qui traversez la vie, eh bien il y a trois paroles, je vous laisse ces trois paroles pour ton exode perso. Et je reprends les paroles du verset 13 du chapitre 14 d'Exode. N'aie pas peur. Je parlais avec un ami de mes problèmes d'estomac, il s'appelle Paul. Et il m'a dit, ah ouais, ça c'est le problème de tous les bileux, de tous ceux qui se font de la bile, de tous ceux qui ont peur, un peu peur de tout, mais en particulier de l'avenir, ou plus particulièrement, peur de ne pas en faire assez, peur de ne pas se trouver acceptable, voire aimable. Eh bien, pour tous ces bileux, dont je suis moi-même le premier, comme dit Paul, pour les pécheurs. L'Éternel nous dit, je combattrai pour vous. Et ce qui me fait penser à cette parole du Nouveau Testament, de Romains 8, vous savez, l'Épître aux Romains, c'est la chaîne himalayenne du Nouveau Testament. Et le chapitre 8, c'est l'Everest. Il nous est dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est là, après, qui parlera, où est l'accusateur? Où sont ceux qui nous accusent sans cesse? Où sont mes ennemis intérieurs? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Où sont mes ennemis intérieurs? Ils sont anéantis, on ne les reverra plus en Christ. Si Dieu est pour nous, et il l'a été en Christ, qui sera contre nous? Et je parle d'ennemis intérieurs. Deuxième mot, tiens-toi debout. Il leur dit, tiens-toi debout, tenez-vous debout, tenez-vous là. Et j'ai parlé de 2 Chroniques 20 avec Josaphat et les coalisés contre lui. Et ils se tiennent là simplement, mais ils chantent. Et ils chantent l'amour de Dieu. Loué soit le Seigneur. Les chantent en première ligne d'une armée qui n'en est pas une puisqu'ils n'ont pas à combattre. Qui chantent loué soit le Seigneur car son amour est grand. Ça veut dire, ils se tiennent là, mais sur du solide, sur l'amour de Dieu. Le grand amour de Dieu, c'est un socle. Et dans Exode 14, ils disent « Tenez-vous là et regardez la délivrance, regardez le salut accompli dans l'histoire, mais en vous, regardez-le, contemplez-le. » Il y a Luther, le réformateur allemand du XVIe siècle, au début du XVIe siècle, dans les années 1520-1530, passe un moment difficile dans un château, il est au banc de l'Empire, et c'est difficile pour lui, il est, dit-il, en proie à ses démons intérieurs, le doute et le découragement, il se sent, dit-il, attaqué par Satan, et dans un accès de fureur, il prend même son encrier, il le jette à travers la pièce contre Satan, qui combat contre lui. Mais il a une meilleure stratégie dans le parc du château. On l'a entendu crier « Baptisatus sum !» Je suis baptisé. Luther, qui passait par des ascenseurs émotionnels, pouvait s'appuyer sur un repère, son baptême, qui incarnait pour lui la promesse de la grâce et du salut de Dieu. Il combattait encore. Mais il savait que le combat aux enjeux éternels n'était pas le sien. Dieu avait déjà combattu pour lui. Je suis au Seigneur. Je suis baptisé en lui. J'ai traversé la mer Rouge dans le Seigneur, avec lui. Alors, moi je vous dis que je ne sais pas si vous aviez la tentation, vous n'avez pas besoin d'envoyer votre ordinateur à travers le salon, ni votre portable, quoique ça peut être une bonne solution aussi, mais dites dans votre jardin intérieur, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? Ah, je ne l'ai pas mis. Ouais, il y a un mélange des deux, mais ce n'est pas grave. Et puis dernière, le rester calme, rester tranquille. Il le dit aussi, tenez-vous là et restez tranquille. Restez calme, restez cool. je ne sais pas si elles m'en voudront peut-être, mais j'ai 2 belles filles qui sont enceintes. C'est une joie pour nous. On va devenir grands-parents pour la première fois, mais 2 à la fois. Et elle s'inquiète, et c'est normal, et nous avec elle. Le bébé est mal placé, il est trop gros, trop petit, trop... Et c'est normal. Mais cet accouchement, c'est un moment déterminant pour elle. C'est un moment qui va marquer, certainement. Et j'ai osé leur envoyer ce petit verset, « Reste calme ». C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mes amis, je vous souhaite une belle traversée avec l'Esprit de Christ, avec et dans le Seigneur, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.